Shalom, bracha tout le monde. Nous allons continuer l'étude du Sidour, je crois. Hein? Quoi? Oui, je pense qu'on est arrivé déjà à Gadol Gibor Venora et l'Elyon. Vous voyez ça? Donc voilà. Donc, je crois qu'on avait commencé à élucider ce que veut dire les termes Gadol, Gibor, Venora. Oui, et après on avait fait Eloheinu, Elohe Avotenu, et puis après on a vu Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Oui, et puis après, on a continué sur Ha'el, Ha'gadol, Ha'gibor, Ve'anora. On est arrivé à El-Elyon. Voilà. Et là, nous allons commencer par Gomel, Chassadim, Tovim, n'est-ce pas? Revenir sur l'idée de venir. Tu te réfères au mot Atta. Le mot Atta est un mot qui est tout à fait au début de la bracha, et nous en sommes déjà arrivés à Gomel, Chassadim, Tovim. C'est un peu revenir à une couche très, très ancienne de notre étude. Mais puisque tu l'as demandé quand même, Ata, en hébreu, il y a un verbe pour dire venir, c'est lavo, ba. Il y a un autre verbe, une autre forme grammaticale, moins usitée, qui est Ata. Alef tafhe, qui veut dire venir également. Maintenant, en araméen, ça donnait le verbe ata, alef taf alef, qui est un terme beaucoup plus courant en araméen, c'est-à-dire le terme normal, usuel pour dire venir en araméen, c'est ata. En hébreu, c'est dans les formes poétiques seulement, c'est employé. C'est dans le langage poétique. Mais ça reste quand même un mot hébreu. Le mot ata, qui veut dire donc venir, donne le terme ata, avec un dagesh dans le taf, qui veut dire toi. C'est-à-dire que s'adresser à quelqu'un à la deuxième personne, c'est prendre acte du fait que cette personne vient à moi. D'accord? Donc, Baruch Atta, le mot Atta signifie qui vient à moi. D'accord? C'est ce qu'on avait dit, je crois, la dernière fois. Enfin, l'avant-dernière fois. Depuis, nous avons beaucoup avancé. Nous avons continué sur Hachem, et puis après sur Eloheinu. Après, nous avons étudié les termes Ve'elohe Avotenu. On a même étudié ce que voulait dire Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Et on est arrivé après à l'explication de ce que veut dire Ha'el, après Hagadol, Hagibor, Ve'anora, ainsi que le mot El-Elyon. Tout ça nous avons vu la dernière fois, n'est-ce pas? Et nous en sommes arrivés donc à Gomel Chassadim Tovim, Kone Hakol, Zoche Chasdei Avot. Vous me suivez ou pas? Très bien. Alors que veulent dire ces trois termes-là? Gomel Chassadim Tovim, Kone Hakol, Vezocher Chasdei Avot. En fait, c'est à nouveau le détail de Elohe Avraham, Yitzhak Ve'Yaakov. De même qu'on a vu que Gadol, Gibor, Ve'Nora sont des dérivés de Elohe Avraham, Elohe Yitzhak Ve'Elohe Yaakov. De même, au niveau de la pratique, on a également ces trois louanges-là. Que veut dire Gomel Chassadim Tovim? Qui pourvoit des bonnes grâces. Des bonnes bontés. C'est bizarre, ça, une bonne bonté. Si on suppose qu'il y a une bonne bonté, ça veut dire également qu'il y a une mauvaise bonté. C'est ça? C'est-à-dire que la bonté n'est pas toujours une bonne chose. La bonté, la générosité, c'est à peu près des synonymes. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, me dit, écoute, t'as pas 100 balles, pourquoi faire? Écoute, j'ai absolument besoin d'acheter un revolver pour me suicider, et le problème, c'est qu'il manque 100 balles. Et vraiment, ça m'embête beaucoup parce que c'était aujourd'hui que j'ai prévu le suicide et puis il me manque 100 balles. Tu peux pas, s'il te plaît c'est un prêt, hein, je te rembourserai. Hein? Bon, alors, c'est lui donner, c'est faire un acte de générosité, de bonté, puisqu'il a demandé, je lui donne, n'est-ce pas? Mais c'est lui faire du mal. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle chassadim tovim et chassadim raim, des bonnes bontés, des mauvaises bontés. Il y a un texte de la Gemara très intéressant qui dit comment reconnaître un juif. On reconnaît un juif à trois comportements. Baishanim, Rahmanim, Gomle, Chassadim. Baishanim, les Juifs sont honteux. Rahmanim, ils sont miséricordieux. Et Gomle, Chassadim, ils sont généreux. Et c'est quoi ces trois particularités, pourrait-on dire? Ben, ce sont des défauts. Ce n'est pas des qualités, ce sont des défauts. Par exemple, le Baishan, le honteux, la honte est un mal. Parce que la honte, ça veut dire se remettre en question. Remettre en question la légitimité de son propre être. C'est grave. Pourtant, les Juifs ont une tendance à ce genre, puisque les Juifs sont occupés une très grande partie de leur temps à justifier leur propre existence. Vous avez déjà vu un Italien essayer d'expliquer pourquoi est-ce que l'Italie a le droit d'exister? Non. Tandis que nous, même sur la scène internationale, en politique internationale, on ne cesse d'exiger le droit d'Israël à l'existence. Vous connaissez ça? On entend parler tout le temps de ça. Ça veut dire qu'il y a un manque d'assurance extrêmement grave dans notre être qui fait que nous ne sommes pas sûrs que nous avons le droit d'être. C'est ce qu'on appelle Baishanim. Rahmanim, le miséricordieux. Alors, il y a en hébreu deux mots pour dire être miséricordieux. Il y a Rahman et il y a Merachem. Le mot Merachem, c'est l'aspect positif de la chose, c'est-à-dire prendre en pitié les gens et s'occuper d'eux. Tandis que Rahman, ça signifie l'ébranlement psychologique que me cause la pitié, qui me paralyse. C'est être paralysé, c'est ça être Rahman. Donc, le fait que les Juifs sont des Rahmanim, c'est également une mauvaise chose. Et le troisième terme est également péjoratif, Gomle Chassadim, il donne des bontés. C'est-à-dire, il donne à qui demande. Même avant que la personne demande, on lui donne ce qu'il veut. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, nous apprend comment être vraiment Gomel Chassadim. C'est pour ça qu'on dit de lui Gomel Chassadim Tovim. Exemple biblique, vous connaissez Abraham Avinu, qui prie pour les habitants de Sodome. C'est très grave de prier pour les habitants de Sodome. Ça veut dire que les habitants de Sodome, qui sont des scélérats et qui mettent plein de désordres sur la terre, plein d'iniquités sur la terre, doivent continuer à vivre. Pourtant, c'est ça qu'Abraham veut. Oui, tu voulais dire quelque chose? Voilà. Quoi? Akadosh Baruch Hu, lui, il a le droit d'être Rahman. Ça ne pose pas de problème chez lui. Mais parce que chez Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il est tout puissant et omniprésent et omnipotent, tout ce que tu veux, alors la Rahamanut, justement, fait partie de ses prérogatives. Il est le seul qui a le droit d'avoir la Rahamanut. De même qu'il est le seul à avoir le droit de l'orgueil, Gaava. Parce que chez lui, c'est justifié. D'accord? Oui. Non. Alors, non, on a appris d'Abraham la bonté. Abraham est quelqu'un de très généreux. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une question. D'accord, je sais bien, c'est pas la peine de... Bon, disons, Abraham est un homme généreux. Il est plein de bonté, plein de bonnes intentions. Maintenant, ce qu'il faut pour rajouter à la bonté, il faut rajouter la sagesse. Il y a une sagesse qui consiste à nous dire comment appliquer la bonté. D'accord? Mais c'est très bien d'avoir cet élan-là. C'est-à-dire le fait qu'Abraham ait voulu sauver les habitants de Sodome, c'est en soi une très bonne chose. Mais c'est une chose qu'il ne faut surtout pas appliquer. C'est un bon sentiment, comme on dit. Oui, tu veux dire quelque chose?
C'était surtout par rapport au monde qui disait que les Juifs ont toujours besoin de cette nécessité de se...
De justifier leur existence, oui.
Oui. Surtout pas qu'il dit comme quoi, mais il est une sorte extra... Il faut qu'on est extra extérieur.
Ah, le Rambam dit ça? Je ne connais pas, oui. Oui, alors, oui. D'où ça nous vient? Ben, ça vient du fait que nous sommes le seul peuple au monde qui est né à partir d'une décision. Il y a une décision d'exister. Or, si c'est une décision, donc c'est voulu. C'est une décision. Une décision, on peut toujours se demander si elle était bonne ou pas. Non, 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 pourquoi quelque chose... Non, quelque chose se pose ça la question. Parce que nous, on a le droit de se mettre en question. Parce que ça fait partie de notre nature de se mettre en question. Puisque, comment ça a commencé? Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, va-t'en, et deviens un peuple. Et si Abraham disait non, eh bien, il n'y aurait pas eu. D'accord? Donc, Abraham se pose la question, ça va, est-ce que j'ai bien fait? D'accord? Et cette question, cette interrogation est transmise en héritage à sa descendance de génération en génération, jusqu'à Shalom Marshav et tout le reste. D'accord? Bon. Mais je reviens donc à Gomel Chassadim Tovim. Il pourvoit des bonnes bontés. Kone Hakol, ça veut dire l'acquéreur de tout. Oui? Quoi? Oui. Kone Hakol, l'acquéreur de tout. De qui il a acquis? De lui-même. C'est-à-dire, il y a différentes manières d'avoir la propriété. C'est, on va dire, le propriétaire de tout. C'est plus précis. Il y a deux manières de s'approprier quelque chose. Soit de faire un acte d'acquisition. Bon, je donne l'argent. Je signe un chèque. Je vais passer la carte. D'accord? La carte bancaire. Ou bien, je crée la chose. Voilà, je prends, de la glaise et j'en fais un ustensile. J'ai un droit de propriété du fait que je suis le créateur de la chose. D'accord? Et comme il est créateur, donc il est également propriétaire. Bon, mais ça va de soi. Qu'est-ce qu'on a rajouté là? Kone Hakol. Il est l'auteur de tout. Quand on dit tout, qu'est-ce qu'on inclut là-dedans? Qu'est-ce que ça inclut, tout? Tout, n'est-ce pas? Y compris ce dont je ne veux pas parler. C'est-à-dire, dire tout, c'est une manière polie de dire le mal. Ben oui. Je dis, il est l'auteur de tout. Donc, j'ai été très poli, mais j'ai dit tout. Tout vient de lui. D'accord? C'est-à-dire, ça implique également la midat hadin, la rigueur, qui est la conséquence de la nécessité de juger le mal. Et ça concerne également la justice. Tout. Vezocher hasde avot. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est Kone Hakol est une dérivée de Elohe Yitzhak. Et Vezocher hasde avot, et qui se souvient des grâces des pères. Umevi goel livne venehem le man shemo be'ahava, et qui amène un sauveur pour les enfants de leurs enfants en faveur de son nom avec amour. Tout ça, c'est sibyllin, comme on dit. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu voudrais que j'explique? Écoute, si j'ai lu ça, c'est probablement parce que j'ai l'intention d'expliquer. Comment? Pourquoi Béahava? Mais pourquoi ça n'intéresse pas de savoir le Vézocher? On veut tout savoir. Nous voulons tout savoir. Donc nous allons tout apprendre. Donc, Vézocher Hasdé Avot, il se souvient des grâces des ancêtres. Bon, alors là, c'est pas très clair, cette histoire. Par rapport aux Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous avons deux termes que nous trouvons chez nos maîtres. C'est soit Zechut Avot, le mérite des pères, soit Berit Avot, l'alliance des pères. N'est-ce pas? Dans la Torah, il est très souvent question, en tout cas dans le livre de Bereshit, de Berit. Bérite, l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres, n'est-ce pas? Cette alliance, elle portait sur quoi, au fait? Qu'est-ce que Dieu a promis dans cette alliance? La terre pour qui? Pour la descendance. C'est-à-dire qu'en fait, l'alliance comporte deux éléments, la descendance et la terre. Parce que s'il y a une terre, il n'y a pas de descendance, ça sert à quoi? Donc, il y a deux choses qui nous sont promises par l'alliance de Dieu avec nous, c'est l'existence du peuple d'Israël pour l'éternité et la terre qui lui est donnée pour l'éternité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette alliance? La Torah. C'est-à-dire, c'est un peu surprenant pour un esprit religieux, mais c'est absolument évident pour un esprit biblique. Dans l'esprit biblique, ce que Akadosh Baruch Hu a donné au peuple d'Israël, c'est la terre. C'est donc une dimension politique, géographique. Et c'est à cette entité politique que constitue le peuple hébreu que la Torah a été donnée par la suite. Mais l'alliance concerne tout d'abord la dimension politique. C'est pas très important de comprendre ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Berit Avot, l'alliance. Cette alliance est inaliénable. Mais il y a en plus de cela une deuxième couche. qu'on appelle Zechut Avot. C'est quoi Zechut? Que veut dire le mot Zechut en français? Le mérite. C'est quoi le mérite? Ben, le mérite, c'est que Abraham, Isaac et Yaakov étaient des gens très méritants. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont fait des efforts extraordinaires. Donc, ils ont un mérite. Et ce mérite, eh bien, on s'en sert aussi. Oui? Ben, pour avoir du mérite, il faut avoir fait un effort. Donc, c'est un libre-arbitre. C'est-à-dire, on peut dire de cette manière, le bérit avot est quelque chose qui est dans l'être, et le zérout avot est le fruit d'un effort. D'accord? L'essence et l'existence, ils disent les autres. Oui? Comment était Abraham à la base? Abraham à la base était un enfant à qui il fallait changer les langes et lui donner à téter. D'accord? Le réchauffer avec une petite berceuse. D'accord? Donc au niveau des midotes, il y avait des midotes d'un bébé. Et puis après, il a eu des midotes d'un enfant. Et puis après, d'un adulte. Maintenant, il a orienté ses midotes dans le sens du bien. Il a fait des efforts puisqu'il a fait, il a tenu les 10 épreuves. D'accord? Les 10 épreuves, c'est pas facile. Et de Mitzrak et de Yaakov, ils ont eu des épreuves, nos ancêtres. Et ils ont tenu dans ces épreuves. Donc, ils ont un mérite. D'accord? Maintenant, ça, c'est au niveau des actes. Il y a indépendamment de cela, un deuxième niveau, qu'on appelle le bérit. Dans le bérit, ça dépend pas d'eux. C'est quelque chose qui est intrinsèque à la nation d'Israël et qui les transcende. D'accord? On peut dire comme ça, c'est que ça, bon, c'est un enseignement qui a été développé par le Rav Kook, mais enfin qui a des origines anciennes, c'est que dans la sainteté d'Israël, il y a deux éléments. Il y a un élément qui est dans la nature même de l'être d'Israël, et qui ne dépend pas donc de notre choix, c'est ce qu'on appelle Brit, ou si vous voulez, Segula. Et il y a un autre élément qui dépend de nos efforts, de l'étude de la Torah, les mitzvot, les bonnes actions, etc. Ça s'appelle Bechira. Ce qui dépend du libre arbitre, du choix. C'est bien, c'est clair? Il y a donc deux éléments. Comment? Ce goût-là, eh ben, c'est quelque chose qui a un goût extraordinaire, ça, ce goût-là. Ce goût-là, ça veut dire vertu intrinsèque, comme ça qu'on traduit. D'accord? L'essence. D'accord? En fait, ça veut dire le propre. Le propre de la chose. Comme on dit, le rire est le propre de l'homme. D'accord? Un homme, c'est ce qui sait rire. D'accord? Les animaux ne savent pas rire. T'as déjà vu un serpent rire, toi? Hein? Un singe, ça rit? Même pas. Pas du tout. Les singes ne savent pas rire. Comment? Des quoi, les?
Des grimaces.
Ah oui, des grimaces, ils savent en faire. Elles font rire les hommes. C'est-à-dire, les grimaces des singes font rire l'homme. Mais le rire, c'est un propre de l'homme. Alors, ça s'appelle la ségoula, d'accord? Les fruits d'Eret Israël, par exemple, ont également ce goût-là. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement bons. Ouais. Mais il y a donc dans l'être... C'est incroyable. Donc, il y a dans l'être d'Israël, il y a deux éléments. Il y a un élément éternel, inaltérable, qui est dans, si vous voulez, c'est quelque chose... De même que Dieu a créé les lois de la nature et que les lois de la nature sont immuables, et bien de même, l'être d'Israël a sa propriété immuable, qu'on appelle la Segula, qui est indépendant du comportement juste ou méchant des Juifs. Mais il y a un deuxième élément, qui est en plus de cela, c'est ce qu'on appelle le comportement, Bechira. Alors évidemment, ça pose des problèmes énormes, tout ce que je viens de dire, parce que il y a une règle qui a cours pendant l'histoire. Que la Ségoula ne se manifeste qu'à travers la Bechira. C'est-à-dire, dans la mesure où je me comporte en bien, alors la Ségoula s'exprime, et sinon non. Ce qui veut dire que quand je fais le bien, je gagne deux choses, quand je fais le mal, je perds deux choses. Quand je fais le bien, d'une part, je gagne la sainteté qui est donnée par mon choix d'avoir choisi le bien, et je gagne également le rayonnement de la Ségoula, qui était de toute manière en moi, mais qui ne pouvait pas se manifester. Si je fais le mal, j'ai perdu deux choses. Je n'ai pas gagné la sainteté que j'aurais pu obtenir en faisant le bien, puisque j'ai fait le mal. Ça me détériore. Et en plus de ça, la Ségoula reste cachée. D'accord ? Maintenant, la Ségoula relève de ce qu'on appelle Berit Avot, et la Bechira relève de ce qu'on appelle Zechut Avot. Et là, je voudrais m'arrêter un petit instant sur le Zechut Avot, le mérite des pères. C'est quoi le mérite d'un père ? Par exemple, il y a quelqu'un que je connais, mais j'ai connu son grand-père. Écoute, quand je te vois, tu me rappelles ton grand-père. Alors, par le mérite du souvenir de ton grand-père, je t'accorde une faveur. D'accord ? Mais c'est parce que tu lui ressembles. Tu lui ressembles peut-être physiquement, tu lui ressembles également par le comportement. Mais trois générations plus tard, ça commence à se perdre. Plus la personne de l'origine était forte dans sa personnalité, plus son mérite se fait ressentir pour plus de générations. N'est-ce pas ? Maintenant, étant donné que nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, étaient des géants, alors l'impact, l'influence de leur personne est très forte. Ça dure pendant de nombreuses générations. Mais, toute chose a une fin. C'est-à-dire, le mérite des Avot est épuisé à un certain moment de l'histoire. Alors, dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, Talmud Bavli, il y a toute une page dans laquelle la Gemara nous explique que le mérite des Avot a été épuisé. C'est fini. Voilà, on a trop tiré sur le compte, on est en plein découvert, c'est fini. Simplement, il y a différentes opinions, je crois qu'il y a 5 opinions différentes, pour déterminer le moment de l'histoire où ce mérite a été épuisé. L'opinion la plus ancienne dit que c'est déjà à l'époque du désert. Nos ancêtres ont trop tiré sur la corde, et donc le mérite des Avot a été perdu. Et l'opinion la plus tardive dit que c'est à l'époque du roi Chizkiyahou, Ézéchias, comme on dit en français. Quoi ? De toute manière, c'est épuisé depuis très longtemps. D'accord ? Donc le Zechut Avot, fini. Wallo, il n'y a plus. D'accord ? Mais il reste, disent les Tosfot, le Berit Avot. Le Berit Avot, ça y reste, de toute manière. C'est-à-dire, de toute manière, Akadosh Baruch Hu, il a conclu avec nous une alliance. L'alliance, comme elle vient de lui, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Donc, ça continue. D'accord ? C'est-à-dire, il y a une différence entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de l'homme est fini, même si c'est quelque chose de très fort. Ça a une fin. Ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu est infini, donc il n'y a pas de limite. D'accord ? La différence entre Berit Avot et Zechut Avot. Des notions très importantes à comprendre. Pourquoi d'ailleurs le Zechut Avot est fini ? Il y a aussi des raisons historiques à cela. Le fait que le monde a changé. C'est-à-dire, nos Avot ont agi dans un certain univers de civilisation qui a changé. La civilisation a changé. Et donc, on n'est plus dans le monde où l'impact de nos Avot se faisait sentir. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire de Chasdei Avot ? Voilà. Le troisième terme, c'est celui qui apparaît dans notre prière, là. On ne dit ni Zechut Avot, ni Berit Avot, et j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est que ce Chasdei Avot. Voilà. Vous avez compris la question ? Vous voulez une réponse ? Je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est que, étant donné que le Berit Avot n'a pas disparu, il est possible de ressusciter occasionnellement le Zechut Avot. Comment ? Ben, quand on décide de faire teshuvah, de se comporter comme nos Avot, alors on rappelle le Zechut quand même. Et ça s'appelle Chasdei Avot. Zocher Chasdei Avot. C'est-à-dire, Zocher, se souvenir, c'est quelque chose qui a été oublié. On se souvient de quelque chose qu'on a oublié. Donc, ça a été oublié, mais ça a été ressuscité. Zocher Chasdei Avot. Quand nous avons les actes qui font que nous le méritons. C'est-à-dire, nous disons à Kadosh Baruch Hu, écoute, de temps en temps, on se comporte quand même comme nos pères. Alors, par ce mérite-là, souviens-toi du Zechut Avot, du fait de notre comportement. Ça s'appelle Zocher Chasdei Avot. Jusque-là, vous avez suivi ? Mais, après, il y a une autre phrase qui dit le contraire. Oui, quoi encore ? Oui, mais ça veut dire quoi, véritablement faire des chouvas ? Ressembler au Avot. Voilà. Il y a différentes manières de ressembler au Avot. Par exemple, en faisant son alia. Faire son alia, c'est ressembler au Avot. Les Avot ont fait leur alia, nous aussi. D'accord ? Donc maintenant il y a une petite phrase. Oui, quoi? Maintenant il y a une phrase qui dit le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est la suite. C'est Umevi Goel ibn Even Leman Shemo. Et il amène un sauveur aux enfants de leurs enfants en faveur de son nom. C'est-à-dire en faveur de son nom quand ça ne marche pas le mérite. Alors pour bien comprendre ça, essayons de voir d'abord de quel prophète on parle ici. On parle ici du prophète Ézéchiel, en vérité. Ézéchiel. Ézéchiel. Où est-ce qu'il y a ici Ézéchiel? C'est justement le volume qu'il n'y a pas. Vous avez un Tanakh là? Un Tanakh. Un Tanakh, tout simple. Petite remarque technique. Les francophones israéliens se trompent sur la manière de dire le nom d'Ézéchiel en hébreu. Comment vous dites Ézéchiel en hébreu? Voilà, c'est, vous avez fait la gaffe, comme tout le monde. Vous dites Yehezkiel. C'est tout à fait faux. En hébreu, c'est Yehezkel. Pas Kiel, mais Kel. D'accord? Parce qu'on est influencé par le français. Puisqu'en français, on dit Ézéchiel, alors on pense qu'en hébreu, il faut dire Yehezkiel, ce qui est totalement faux. Il faut dire Yehezkel. D'accord? Vous en faites pas, j'ai vu de très grands maîtres se tromper là-dessus. En tout cas, dans le livre d'Ézéchiel, en hébreu, Yehezkel, très très bien, vous avez appris très vite, au chapitre 37. 37 ou 36? J'oublie tout. 36. Vaïe devar, au chapitre 36, verset 16. Et suivante. Vaïd var Hachem Elaïl est mort, et la parole de Dieu me fut adressée en ces termes. Ben Adam, fils de l'homme. Bet Israël, Yoshim al Admatam, la maison d'Israël, était installée sur sa terre. C'est-à-dire que les Hébreux étaient en Eretz Israël. Vaïtameota, ils l'ont souillé, la terre. Bedarkam ou Valilotam, par leur cheminement et leurs actions. Kitum atanida aita darkam lefanai. C'était comme l'impureté de la femme en menstrue que leur comportement devant moi. Vaeshpor hamati alehem. J'ai déversé mon courroux sur eux. Aladam asher shafru al haaretz, à cause du sang qu'ils ont versé sur la terre. Uve giluleem tim uha, qu'ils ont souillé par leur abomination. C'est dur, hein? Va'afitzotam bagoyim, et je les ai dispersés dans les nations. Va'yizaru ba'aratzot, ils furent disséminés dans les terres. Kedarkam v'chalilotam shefatim, je les ai jugés comme ils le méritaient. Va'yavo elagoyim, il se rendit, c'est-à-dire le peuple, dans les nations, asher ba'usham, où ils sont arrivés. C'est-à-dire, ça décrit quoi là pour l'instant? La galoute, n'est-ce pas? La galoute. Vaïhalelu et Shem Kochi, et ils profanèrent mon saint nom. Ah bon, comment? Hein? La galoute, une profanation de Dieu? Comment? Be'emor lahem, parce qu'on disait d'eux, Am Hashem Ele, c'est eux le peuple de Dieu? Ou me'artso yatsaou, ils ont quitté sa terre. C'est-à-dire, les goyim considèrent que l'exil même, indépendamment du comportement des juifs, qu'ils fassent le Shabbat ou pas, qu'ils mangent kasher ou pas, le fait même qu'ils soient en dehors de la terre de Dieu, ça prouve qu'ils ne sont plus le peuple de Dieu. Ce qui est en soi une profanation du nom de Dieu. Ah, il ne dit pas qu'il ne leur reproche pas du tout, il dit que c'est le fait. Le fait même de les avoir jugés, de les avoir fait sortir, entraîne une profanation du nom de Dieu. Il laisse son nom se profaner pour juger Israël. Mais attention, il y a une limite à ça. Va ehmol al shem kochi. J'ai pris mon saint nom en pitié. Vous vous rendez compte? C'est Dieu qui a pitié de son nom. Asher chililuhu bet Israël, que la maison d'Israël a profané. Bagoyim asher baou shama. dans les nations où ils ont été. La reine est mort les bêtes Israël, et c'est pourquoi il faut que tu dises à la maison d'Israël. Ko amar Adonai Elohim, ainsi parle l'Éternel Dieu. Lo lemanchem ani ose bet Israël. Ce n'est pas par votre mérite que j'agis, maison d'Israël. Kim le shem kochi asher hilaltem, mais c'est en faveur de mon nom, de mon saint nom que vous avez profané. Bagoyim asher batem sham, dans les nations où vous êtes arrivés. C'est-à-dire, la motivation de la Géoula n'est pas le mérite des Juifs. Vous avez remarqué, c'est écrit en toutes lettres. Akadosh Baruch Hu dit, je fais ça en faveur de mon nom. Parce qu'il est insupportable de laisser mon nom se profaner trop longtemps. Alors il y a une limite à la galoute à cause de ça. Vekidashti et Shemi Agadol, je sanctifierai mon saint nom. Mon grand nom. Amechulal Bagoyim, qui est profané parmi les nations. Asher Chilaltem Betocham, que vous avez profané en leur sein. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, parole de l'Éternel Dieu. Lorsque je me sanctifierai en vous à leurs yeux. Je vous prendrai de parmi les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous amènerai à votre terre. Maintenant, dans quel état il nous ramène? Est-ce que nous sommes des tzadikim ou pas quand il nous ramène? J'en sais rien, on va voir par la suite. Vezarakti alechem maim teorim, et alors je jetterai sur vous de l'eau pure, utartem, et vous serez purifiés. Mikol tum otechem, de toutes vos impuretés. Ou mikol gilulechem ataeretrem, et je vous purifierai de toutes vos abominations. Venatati lachem lefrada, je vous donnerai un cœur nouveau. Verouach hadasha eten bikir bechem, je mettrai en vous un nouvel esprit. Vasiroti et lev aeven mi besarchem et natati lachem lev basar, j'enlèverai le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair. Vetrouchi eten bikir bechem, et je donnerai mon esprit en vous. Vous avez beaucoup, beaucoup d'étapes. Et après la dernière étape, Vasiti et asher bechukai telechu, et je ferai de sorte que vous respectiez mes lois, ou mishpatai tishmeru va'asitem, et que vous préservez mes préceptes pour les accomplir. J'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est que l'accomplissement des mitzvot vient à la fin. Et non pas au début. C'est-à-dire, contrairement à l'idée reçue que nous allons accomplir les mitzvot pour que Dieu nous ramène en Eretz Israël, c'est exactement le contraire. Je vous ramènerai, et alors vous pourrez accomplir les mitzvot. Ce qui est supposé derrière ce discours, c'est que l'accomplissement des mitzvot en Chutz La'aretz n'est pas véritablement possible. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Vishavtem ba'aretz, et alors vous résiderez sur la terre, asher natati la'avotechem, que j'ai donné à vos ancêtres. Vihitem li le'am ve'anuchi lachem l'Elohim, vous serez pour moi un peuple, je serai pour vous un Dieu. Ve'oshati etrem, je vous sauverai, mikol tumotechem, de toutes vos impuretés, etc., etc. Et après quelques versets, ce n'est pas pour vous que j'agis, parole de l'Éternel Dieu. Sachez-le. Boshu veikalmu. Ayez honte. Soyez confis. Midarkechem bet Israël, de vos chemins, maison d'Israël. Donc vous avez compris que ça explique en fait, en quelques mots, ça c'était dans quelques mots ramené dans la prière. Umevi goel ivne venem, il amène un sauveur pour les fils de leurs fils. Les mains chez mots en faveur de son nom. C'est-à-dire qu'il y a une profanation du nom par la galoute, et que cette profanation du nom devient insupportable, entre guillemets, pour l'Éternel, et qui nous ramène en Eretz Israël. Oui? Non. Tu veux dire quelque chose? Si Ézéchiel a dit ça pour les exilés du premier temple, alors à plus forte raison pour les exilés du deuxième temple. Oui? Très bien. Donc, maintenant, ce que j'aimerais comprendre, pourquoi est-ce qu'on dit l'Ivné Bénéhem? Il amène un sauveur pour les enfants de leurs enfants. Ça veut dire, on pourrait dire l'Ivnéhem. Il amène un sauveur pour leurs enfants. C'est quoi les enfants de leurs enfants? Ça suppose autre chose, que nous sommes des comme disait Manitou, nous sommes des rescapés de rescapés. C'est-à-dire que, à travers l'exil, il y a eu un tri qui s'est fait. Et donc, il y a tri après tri, et après seulement reviennent ceux qui sont Israël. C'est-à-dire, il y a une identité Israël qui doit être préservée ou qui doit être ressuscitée, et l'exil fait un tri de ce de point de vue-là. Oui?
Oui, alors. Ça veut dire qu'on est censé être capable de donner l'identité, une force dessus pour qu'après être capable de le ramener
Peut-être. Peut-être. Les mains de Shemo, donc, en faveur de son nom. Be'ahava. Avec amour. Ah bon? Avec amour? D'après ce qu'on a lu là, c'est pas tellement avec amour. C'est plutôt en faveur de ses intérêts à lui. En fait, c'est une prière. On veut que ça se fasse avec amour. Parce que si ça ne se fait pas avec amour, oulala, ça va très mal. Vous savez que chez nos frères Ashkenaz, il y a dans la bénédiction de Bonnet Yerushalayim, une introduction, qui dit « Vel Yerushalayim irecha berachamim tashuv » « À Jérusalem, ta ville, reviens avec miséricorde. » Et il y avait un homme de très haut niveau, qui s'appelle le professeur André Neher, dont vous avez peut-être entendu parler, qui raconte que dans sa vie, il a donné trois interprétations différentes de ce texte. Quand il était jeune, alors, il disait, Vilirushaim Ircha Berachamim Tashuv, il disait à Dieu, reviens-toi à Jérusalem, ta ville. Moi, je reste à Strasbourg. Et puis après, quand il est devenu sioniste, alors il a compris que il s'adressait aux Juifs d'Europe orientale, les pauvres Juifs d'Europe orientale qu'il fallait aider à faire leur aliya. Vilirushaim Ircha, Jérusalem, qui est ta ville, à toi. Moi, je reste à Strasbourg, mais Ircha Berachamim Tashuv, reviens à Jérusalem, ta ville. Et puis après, quand il y a eu la Shoah, il a compris que ça s'adressait à lui. On lui disait, à Jérusalem, ta ville à toi, le priant, reviens vite, quand c'est encore le temps de la miséricorde. Pour que ça ne soit pas par la rigueur. D'accord? C'est-à-dire que de toute manière, la Géoula doit arriver. Elle peut se faire en catastrophe, elle peut se faire avec amour. Même quand elle se fait en catastrophe, c'est par amour. Mais c'est un amour caché. Donc c'est pour ça qu'on dit, les mains de Shemo, Be'ahava, en faveur de son nom, par amour.
Avec amour.
C'est pas une prière, ça. C'est une louange. Nous expliquons qui est celui à qui la prière est adressée. D'accord? Voilà, jusque-là, vous suivez? Très bien, bon, on peut continuer alors, dans ce cas-là. Melech Ozer, ou Moshia, ou Maren. Dieu qui aide, qui sauve, qui protège. C'est quoi, ça? Ce sont des mots qui disent exactement le contraire l'un de l'autre. Ozer, ça veut dire qui aide. Moshia, qui sauve. C'est le contraire de aider. Si j'aide quelqu'un, c'est qu'il fait un effort. Il participe. Si je le sauve, c'est qu'il n'a rien fait. C'est moi qui l'ai sauvé. C'est-à-dire... Alors, il est Ozer ou Moshia. Ça s'appelle Ozer. Ça s'appelle aider. C'est le premier terme. Il fait l'effort et je lui donne le coup de pouce, ça s'appelle l'aider.
Ben, c'est... quelqu'un qui est sur une falaise, oui.
Donc il y a les deux. Mais ça représente quand même deux éléments différents du sauvetage. Il y a l'élément où il y a participation de la personne qui est sauvée, et l'élément qui dépend entièrement du sauveur, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire, il y a un texte très important dans le Talmud, dans Maseret Sanhedrin, page Sadik Vav et Sadik Zay. Non, Sadik Red et Sadik Tet, pardon. Sadik Red Amoudbet et Sadik Tet Amoudalev. Un débat entre Rabbi Eliezer. Non, je me trompe. C'est Sadik Vav et Sadik Zay, pardon. Je ne sais plus ce que j'ai aujourd'hui. Sadik Zay. Bon, écoutez, on va voir dans le texte et puis c'est tout. Hein. On va pas se casser les pieds. C'est une catastrophe. Vous n'avez qu'à faire une pétition pour m'envoyer. Il y a ici, il y a ici, il y a ici. Je l'ai. Hein? Faites pas de pétition. Ça dit quelque chose, c'est ça? C'est ça. Dans Sanhedrin, Tzadik Zayin Bet et Tzadik Ret Amud Aleph, c'est-à-dire 97B et 98A, un débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, les deux grands élèves de Rabban Yochanan Ben Zakkai, qui discutent de savoir est-ce que la délivrance d'Israël dépend d'un mouvement de Teshuvah ou pas. Est-ce que la Géoula dépend de la Teshuvah ou pas? D'après ce qu'on a vu dans Ézéchiel, non. N'est-ce pas? Mais enfin, malgré tout, ce débat est très... Il est pathétique d'ailleurs, vous allez voir, si on, un jour on l'étudie, vous allez voir, c'est extrêmement pathétique, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Et finalement, Rabbi Yehoshua dit que la Géoula ne dépend pas de la Teshuvah, tandis que d'après Rabbi Eliezer, elle dépend de la Teshuvah. Et il y a tout un ping-pong d'abat de versets, chacun envoie un verset contre l'autre, chacun réfute, et finalement le gagnant, match, c'est le coup de grâce, c'est donné par Rabbi Yehoshua. C'est Rabbi Yehoshua qui a raison. Il amène un verset de Daniel, dans lequel il est prouvé que la Géoula doit arriver de toute manière, qu'il y ait Teshuvah ou pas. Et la Gemara continue en disant « Veshatik Rabbi Eliezer » et Rabbi Eliezer s'est tu. Pourquoi il s'est tu? À sa place, moi j'aurais dit, et Rabbi Eliezer a accepté. Il a dit, tu as raison. Disons comme ça, il y a plusieurs interprétations de ce silence de Rabbi Eliezer. Le professeur Emmanuel Levinas disait, c'est fini là-bas, le professeur Emmanuel Levinas disait que c'est parce que l'opinion de Rabbi Yehoshua, même si elle est prouvée, blesse la conscience morale de Rabbi Eliezer. Il a du mal à accepter. Comment il y aurait délivrance sans mérite? Comment cela est-il possible? Pourquoi? D'accord? Il y a quelque chose sur le niveau moral qui choque Rabbi Eliezer. Donc il ne peut que se taire. Maintenant, c'est pas si simple que ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Pourquoi est-ce que cette controverse est apparue, Bichlal? Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas donné assez d'éléments pour que cette controverse n'apparaisse pas? D'accord? Ça veut dire probablement que c'est les deux opinions doivent apparaître dans l'histoire. Et qu'il y a peut-être deux modalités de Géoula. Il y a une Géoula qui vient par la Teshuvah, une Géoula qui vient sans la Teshuvah. Celle dans laquelle on fait Teshuvah, c'est une Géoula dans laquelle on aide Dieu. On dit Be'ezrat Hashem pour aider Dieu. C'est là qu'Akadoshou il nous aide également. Meler Ozer. Mais si on ne fait pas le travail, il est Moshia. Remarquez que ça correspond au nom de ces deux Chachamim, Rabbi Eli Ezer et Rabbi Yehoshua. Comme par hasard. Il y a d'ailleurs, à chaque retour, il y a ces deux éléments. Par exemple, lors de l'entrée en Eretz Israël, la première fois, c'était au temps de... Non, en tant que peuple. Yehoshua. Yehoshua, comme par hasard. Et comment s'appelait le grand prêtre? Elazar. Elazar, c'était le fils de d'Aaron, n'est-ce pas? Donc il y avait Yehoshua et Elazar. Lors de la deuxième fois qu'on est venu, c'était à quelle époque? De Ezra, tiens, drôle de nom quand même. Ezra. Et le grand prêtre s'appelait Yehoshua. Yehoshua à Kohen Agadol, n'est-ce pas? Vous avez les deux éléments. Et lors du troisième retour, nous avons deux opinions, celle de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yehoshua, pour savoir comment ça marche. Et là, vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu se fait appeler Ozer ou Moshia. C'est-à-dire, les deux éléments se retrouvent à chaque Géoula. Il y a l'élément du mérite et l'élément de la, c'est-à-dire de la nécessité historique, de la promesse, et ça agit en même temps. Meler Ozer ou Moshia. Il doit s'appeler les deux à la fois, un truc comme ça. D'accord? Ouais. Voilà. Yehoshua, ça veut dire le sauveur. Eliezer, ça veut dire celui qui aide. C'est la même chose. D'accord? D'ailleurs, chez les chrétiens, ça leur fait des tas de, disons, de fantasmes mystiques autour de la personnalité de Yeshua chez eux. Ils ont leur truc comme ça aussi. Ça les impressionne beaucoup. En tout cas, donc, Melech Ozer Moshia, qui aide et qui sauve, ou Magen. C'est-à-dire quoi, Magen ? Qui protège. Parce que le mot un Magen, c'est un bouclier, n'est-ce pas ? Mais, bon, il y a la connotation de Gan. Gan, c'est c'est un jardin. Un jardin, c'est ce qui est entouré. D'ailleurs, à rapprocher du mot français la gaine, une gaine qui protège également. Ah oui. Mais, et de genome en latin, ce qui est un gène. Enfin, bref, il y a des rapports entre les langues, effectivement. Il y aurait des choses à dire là-dessus, peut-être sur ce genome. Il y a un livre intéressant que je vous conseille, un livre qui est difficile à trouver. Hein. Il s'appelle La langue hébraïque restituée. Par Fabre d'Olivet. Vous savez qui c'est Fabre d'Olivet ? Non, ben c'est un type intéressant quand même. C'était un Français qui était dans la délégation qui est partie en Égypte avec Napoléon lors de l'expédition d'Égypte et qui a été un des premiers à faire des recherches sur les hiéroglyphes avant Champollion, etc. Et qui a écrit un livre extrêmement curieux sur la langue hébraïque. Fabre. F-A-B-R-E. D'Olivet. D'O-L-I-V-E-T. Fabre d'Olivet. Et alors, il a développé énormément d'idées autour de la langue hébraïque. Des choses assez surprenantes, surtout de la part d'un goy. Comment est-ce qu'il est arrivé à ses conclusions? C'est des choses assez surprenantes. Enfin, là-bas, il a cette idée justement du rapport entre gain, gainom, etc. Tout ce machin-là. Bon, donc je reprends ici Magen, oui, Magen Abraham, le bouclier, celui qui protège. Mais dans la protection d'un bouclier, en fait, je ne fais pas vraiment d'effort. C'est-à-dire, l'assaillant m'attaque sur mon bouclier, mais je suis protégé. En fait, je peux, pendant ce temps-là, jouer aux échecs sous mon bouclier, pas de problème. Et c'est à rapprocher donc du mot araméen Magan. Que veut dire le mot Magan en araméen ? Gratuit. Gratuit. Magan ou magana, ça veut dire gratuit en araméen. Donc, Melech Ozer Moshia, qui aide et qui sauve, ou magen, et qui de toute manière protège. Puisqu'il y a ce qu'on appelle la segula, comme on avait dit tout à l'heure, qui fait que de toute manière on a notre assurance.
C'est pas dit avec Moshia.
Quoi ?
Quoi, qu'est-ce que... Moshia,
oui, mais Moshia, c'est l'action. Magen, c'est la raison. Pourquoi est-ce qu'il est Ozer Moshia ? Parce qu'il est Magen. D'accord ? Baruch Ata Hashem, source de bénédiction qui vient à moi sous forme de miséricorde, Magen Avraham, bouclier d'Avraham. Qu'est-ce qui manque ? Yitzhak Yaakov. On devrait dire, Baruch HaTashem, Magen Avraham, Yitzhak Yaakov. On dit Magen Avraham. Ah bon. Alors, la Gemara nous dit un truc, c'est que quand HaKadosh Baruch Hu a dit à Avraham, là je vais vous lire ça à nouveau dans le texte, quand il lui a dit, Ve'esra l'Egoy Gadol, je ferai de toi une grande nation, interprétation de la Gemara, c'est que l'on dira Elohe Avraham. Et la Gemara dit qu'Avraham, quand il a entendu ça, il est très content. Et après, il lui a dit, va avarechecha, et je te bénirai, c'est parce qu'on dira Elohe Yitzhak. Et alors, Avraham était un peu moins content. Et après, il lui a dit, va gadela shemecha, j'agrandirai ton nom, c'est qu'on dira Elohe Yaakov. Alors vraiment, Avraham a fait la grimace. Et alors, Dieu lui a dit, veye baracha, et tu seras bénédiction, on finira par toi, puisqu'on dit Magen Avraham. Alors, il était content. Une drôle d'histoire, n'est-ce pas ? Avraham est jaloux de ses enfants et de ses petits-enfants. Il n'est pas content qu'on dise « Elohe Avraham, ça va, mais si je dois partager avec d'autres, ah non, alors ça va pas. » Mais ne t'en fais pas, à la fin on dit « Magen Avraham ». Ah bon ? Ah, c'est très bien. C'est un gosse, quoi. Non. C'est qu'en fait, il ressent, enfin ça ressort d'un enseignement du Rav Kook, il sent, parce que quand le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la volonté d'Abraham. Or, la volonté d'Abraham est cosmopolite. Il veut englober toute l'humanité dans son message. Quand on lui dit Yitzhak et Yaakov, ça se restreint sur le plan national. Ça devient Israël et pas les nations. Il a peur du racisme. Vous avez compris? C'est, Abraham était très embêté de voir une restriction de son projet à l'échelle d'une nation, au lieu que ce soit toute l'humanité. Alors Dieu lui dit, t'en fais pas, Bechachotmim, on finit par toi. Ça veut dire que ton projet s'accomplira à travers Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, le levier qui va permettre de véritablement réussir ce projet, c'est de passer par une concentration nationale. Et c'est de cette concentration nationale que va pouvoir naître l'universel, le rayonnement universel. Donc, le projet, c'est vrai, c'est Abraham. Pour que ça marche, il faut que ça passe par Yitzhak et Yaakov. Mais ça finit par Abraham. Vous avez compris? Oui. Abraham est quelqu'un de très grand, donc il comprend que quand Dieu lui dit quelque chose, il doit adhérer. Pour adhérer, il faut comprendre. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas compris comment ça marche, il ne peut pas véritablement adhérer, même si c'est Dieu qui l'a dit alors. C'est une autorité, tu amènes l'autorité. Oui, mais l'autorité, ça n'emporte pas mon adhésion. À Kadosh Baruch Hu, il a l'autorité, il faut faire ce qu'il dit, d'accord. Confiance, il faut faire confiance, ça ne veut pas dire que j'accepte intérieurement. Il faut, pour vraiment adhérer, pour vraiment accepter, il faut avoir compris. Et pour le comprendre, il faut l'étude. C'est-à-dire ce que nous allons voir dans nos études de Bereshit. On va voir que ça se passe de cette manière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.